Catène.
C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Catène.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une fuite qui a agacé les scientifiques du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La semaine dernière, un volet du sixième rapport qui sera officiellement publié en février 2022 a été dévoilé par la presse. Alors je comprends leur agacement car ce document n'est qu'un brouillon qui date de 2020 sur lequel travaillent encore 260 auteurs et 1168 relecteurs. Il faut que vous sachiez que ces scientifiques du monde entier se mobilisent bénévolement pour produire un rapport rigoureux. Ils passent des nuits entières à relire et à débattre chaque ligne de ce qui constituera les 4000 pages du sixième rapport du GIEC. Alors oui, diffuser quelques pages en se gargarisant d'un scoop mondial est un mépris pour leur travail, mais est-ce que l'empressement à connaître le contenu de ce rapport n'est pas, lui, une bonne nouvelle ? Qu'un rapport du GIEC soit piraté prouve que la dégradation de l'état de notre planète inquiète, que la curiosité est excitée et que ce genre d'information fait vendre les journaux. Avant, les médias s'en fichaient, maintenant ils ont hâte d'en parler, et bien moi, je trouve cela positif.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Corinne Le Quéré.
Bonjour.
Vous êtes climatologue franco-canadienne, professeure de sciences du changement climatique et de la politique à l'université d'East Anglia, c'est en Angleterre. Vous dirigez le centre Tyndall pour la recherche sur le changement climatique. Et vous présidez le Haut Conseil français pour le climat qui vient de sortir son troisième rapport annuel. On va en parler dans un instant. Qu'en pensez-vous, vous, de cette fuite du rapport du GIEC ?
Ben, écoutez, comme vous le disiez, c'est bien qu'il y ait un intérêt pour le réchauffement climatique, pour savoir où est-ce qu'on en est. Mais bon, il faut être patient et attendre que tout ça soit bien ficelé pour qu'on ait les bonnes informations. Donc, que ça sorte trop vite, c'est pas non plus très utile. Par contre, ça n'empêche pas les actions d'avancer très, très vite parce qu'effectivement, il y a urgence.
Oui, alors on ne va pas parler de ce rapport-là, on va parler du rapport que vous avez publié, vous. Mais il y a quand même un constat dans ces fuites qui est que la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes, l'humanité, elle, ne le peut pas. Vous partagez ce constat ?
Oui, tout à fait. Donc, il s'agit bien de répondre au réchauffement climatique pour nous, les humains, qui s'appuyons sur l'environnement, sur les écosystèmes qui nous permettent d'avoir une qualité de vie élevée et de continuer nos activités. Et en fait, un climat qui se réchauffe entrave en fait nos activités de tous les jours. On le voit bien avec les vagues de chaleur, avec les pluies diluviennes, avec les impacts au niveau du sol, et il faut répondre à la fois en réduisant nos émissions, réduisant les impacts et aussi en s'adaptant au climat qui se réchauffe.
Voilà, donc ne nous trompons pas de message, il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de sauver l'humanité. Alors c'est sans doute pour ça, entre autres, que vous avez accepté de présider le Haut Conseil français pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de cette institution qui a été créée en novembre 2018 ?
C'est le Haut Conseil pour le climat, c'est un groupe d'experts sur le climat, l'expert au plus haut sens, le plus large du terme, qui est chargé d'évaluer la stratégie du gouvernement en matière de climat. Donc, on fait un constat chaque année de l'évolution des politiques publiques et aussi de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et pour la première fois cette année, des politiques d'adaptation au réchauffement climatique.
En fait, vous êtes le petit caillou dans la chaussure du gouvernement.
Oui,
pour
quelque part.
Dénoncer un peu le décalage entre le discours et les actions. Alors, vous publiez cette semaine donc le troisième rapport annuel de ce Haut Conseil pour le climat, qui est intéressant sur de nombreux aspects. Alors, tout d'abord, vous faites un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre qui sont donc responsables du changement climatique. Alors, vous dites que globalement, à l'échelle mondiale, il y a eu une baisse des émissions en 2020 grâce aux conséquences de la crise sanitaire, mais ce n'était que temporaire.
Tout à fait. La baisse des émissions, elle n'est pas été structurelle en 2020. Elle a été temporaire parce que on a les mêmes bâtiments, les mêmes voitures, les mêmes industries et tout. On les a juste utilisées moins. Alors du coup, aussitôt que la crise elle se termine, en fait, on retourne à nos habitudes. Donc c'est pas des politiques climatiques. Par contre, comment est-ce qu'on répond maintenant, alors au jour d'aujourd'hui, à cette crise? Comment est-ce qu'on sort de la crise? Où est-ce que l'on met nos investissements? Comment est-ce qu'on se déplace pour l'ensemble de la société, hein, la mobilité en fin de crise? Tout ça, ça va avoir une influence vraiment très importante sur les émissions.
Alors, la France, puisque c'est à ce pays que vous vous intéressez, la France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. En gros, est-ce que la France est sur la bonne trajectoire?
Donc, la France, elle a des objectifs climatiques pour 2050 qui sont assez ambitieux. Elle n'a pas atteint son premier objectif qui était budget carbone 2015-2018. Maintenant, on voit des améliorations dans la dernière année 2019 et aussi du rythme de baisse des émissions et aussi du suivi des politiques publiques. Mais ce n'est pas encore suffisant pour vraiment garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France. Donc, on a avancé dans la dernière année en particulier, mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire et on n'est pas encore au bon niveau.
Alors, les secteurs sur lesquels il n'y a pas de progrès, c'est un peu embêtant parce que ce sont les secteurs les plus émetteurs, sont les transports et l'agriculture qui sont respectivement responsables de 30% et de 20% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Qu'est-ce qui bloque sur les transports?
Donc, sur les transports, du coup, on a une demande en transport qui augmente. C'est ça le gros problème. Avant la crise du COVID, bien sûr, donc on se déplaçait plus, on avait plus de déplacements de marchandises, du coup. Et les efforts que l'on a faits au niveau de l'efficacité énergétique des véhicules en particulier, en fait, ils ont été complètement compensés par cette plus grande mobilité des individus et des marchandises. Donc, on n'a pas fait suffisamment, et là, on parle de sur beaucoup, beaucoup d'années au niveau français, au niveau européen, on n'a pas anticipé suffisamment les instruments qu'il fallait mettre en place, les réglementations. On n'a été pas assez sérieux, en fait, sur les réglementations, en particulier sur le poids des véhicules qui a augmenté avec le temps. Pour vraiment permettre de réduire les émissions de ce secteur, on n'a pas suffisamment mis l'accent sur le transport, le transfert modal, donc vers le transport en commun, la marche et le vélo. Et du coup, on voit vraiment la voiture individuelle qui domine. Et en sortie de crise du COVID, on voit encore une préférence pour la voiture individuelle parce que maintenant, il y a des préoccupations pour la santé. Il y a aussi des opportunités par rapport à l'engouement du vélo, mais c'est très dur, très difficile au jour d'aujourd'hui de dire où est-ce qu'on va arriver en fait en fin de crise au niveau de ce secteur.
Donc, à suivre. Et alors, l'agriculture?
Donc, l'agriculture, elle voit ses émissions diminuer sur la dernière décennie, mais très doucement, environ 1% par année. Et du coup, elle suit son objectif par rapport à la stratégie nationale bas carbone qui est en place au niveau de la France, mais son objectif, il n'était pas très ambitieux à l'intérieur de cette stratégie. Maintenant, pour l'avenir, les budgets carbone qui sont alloués à ce secteur, les objectifs de ce secteur doivent accélérer. Et donc, on a vraiment besoin de revoir les politiques publiques, de renforcer la PAC en particulier, cet instrument européen, ces réglementations européennes.
La politique agricole commune.
Exactement, pour accompagner les pratiques de l'agriculture dans son ensemble et le stockage de carbone aussi dans les sols.
L'idée, c'est d'inciter à développer l'agroécologie, l'agroforesterie, de diminuer aussi l'élevage.
Et de faire mieux, moins mieux au niveau de l'élevage, d'accompagner les pratiques qui servent à stocker le carbone dans les sols et aussi d'accompagner une réduction autant que possible de l'utilisation d'engrais pour faire justement plus de manière plus efficace, réduire les émissions.
Alors, vous pointez aussi la part importante de ce que vous appelez les émissions nettes importées. Alors, on est sur un média international, hein, RFI, donc c'est quoi les émissions nettes importées? De quoi s'agit-il?
Donc, il s'agit des produits, en gros, qui sont produits à l'étranger et que l'on consomme en France, donc les appareils électroniques en particulier, les smartphones, les ordinateurs, tout ça qui sont faits à l'étranger et que l'on importe et que l'on utilise en France. Et du coup, c'est la responsabilité partagée hein, entre la France et les pays producteurs et ça fait augmenter ce qu'on appelle l'empreinte carbone des Français. Et du coup, on a des leviers pour les faire réduire. Il s'agit de travailler avec les entreprises sur les chaînes d'approvisionnement. Et si on y arrive à travailler avec les chaînes d'approvisionnement, du coup, on peut avoir des bénéfices pour réduire les émissions de l'empreinte carbone des Français, mais aussi réduire les émissions de l'étranger. Et donc, ça a un effet amplificateur des actions de la France pour vraiment permettre à l'ensemble des pays d'aller vers une tendance vers la neutralité carbone.
Mais ces émissions nettes importées, elles représentent une part très importante hein, des émissions du pays.
Oui, tout à fait. Elles font augmenter les émissions de la France d'environ 50 % et du coup, c'est une part très importante.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut relocaliser beaucoup d'industries? C'est ça le remède?
Pas forcément. Dans certains cas, ça peut être avantageux parce que la France, elle a une production, l'électricité, elle est déjà décarbonée en France largement, pas entièrement, mais grâce au nucléaire. Et donc, du coup, pour certaines industries, oui, ça serait préférable d'avoir une production française, mais pas toutes. Mais certainement, quand on parle de discussions commerciales entre pays, il faut vraiment voir cette dimension de transfert d'émissions entre pays et du coup s'assurer que tout ce qu'on a comme entente commerciale, qu'on appuie le plus possible les entreprises en France, en Europe pour décarboner, pour les protéger, pour qu'elles le fassent de manière la plus sécuritaire, en confiance, en ayant confiance dans le marché français en particulier.
Alors, il y a une large partie du rapport, hein, vous le disiez, qui est consacrée à l'adaptation au changement climatique, parce que la France est déjà largement impactée.
Tout à fait. On a le réchauffement climatique touche déjà la France. Elle dégrade les ressources, particulièrement en eau, en biodiversité. Elle affecte les biens, les infrastructures. Elle cause problème pour la stabilité financière, oui. Donc là, on parle de vagues de chaleur, on parle de pluies diluviennes, d'augmentation du niveau des mers, de sols qui deviennent de plus en plus secs, de risques de feu, tout ce genre de choses-là. Et du coup, c'est vraiment important de travailler à la fois sur la réduction des émissions pour réduire le risque le plus possible, mais en même temps, de s'adapter au climat qui change. Et là, en ce moment, on est plutôt réactif du climat qui change et il faudrait vraiment passer à une logique proactive, préventive, participative. Il faudrait savoir, hein, il faudrait que toutes les localités sachent comment est-ce qu'elles seront, comment est-ce qu'elles sont déjà et qu'elles seront dans l'avenir encore plus impactées par le climat qui change et que l'on fasse des stratégies d'adaptation qui sont beaucoup plus précises, qui ont des objectifs, qui ont des indicateurs de suivi, que l'on passe de la pratique actuelle. Hein. On a beaucoup de documents d'adaptation à l'heure actuelle, mais ils ne sont pas directifs. Et du coup, on a du mal à mettre tout ça en place parce que ce n'est pas quantitatif, c'est pas chiffré. Et du coup, il faut vraiment passer du coup, à l'étape suivante.
Alors, vous parlez aussi dans ce rapport des forêts, qui sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Les forêts absorbent le carbone, donc absorbent ce gaz à effet de serre. Et vous dites qu'en fait, l'une des conséquences du changement climatique, c'est que ces forêts vont de moins en moins bien parce qu'elles subissent des feux, des sécheresses, et que du coup, elles jouent de moins en moins ce rôle. Et là, on comprend en fait l'effet d'emballement qu'a le changement climatique, toute la perversité de ce processus.
Exactement. Les impacts dans les sols, dans l'agriculture et dans les forêts, comme vous dites, sont très importants pour ces secteurs, en fait, parce que les forêts stockent du carbone, elles nous aident à répondre au réchauffement climatique. Et du coup, maintenant, elles souffrent de ces vagues de chaleur, elles souffrent de risques d'incendie. Et il faut gérer les forêts avec en tête vraiment bien quels sont les impacts auxquels on fait face et comment est-ce qu'on peut gérer sur le long terme, de voir vraiment comment est-ce qu'on peut transformer la façon dont on gère notre environnement, nos forêts, pour qu'elles soient résilientes dans l'avenir.
Corinne Le Quiré, la décennie dans laquelle nous sommes est cruciale.
Absolument. Absolument. C'est maintenant où on met en place ces trajectoires vers la neutralité carbone. Et donc, il faut vraiment passer, il faut vraiment créer les emplois, les filières, les logiques, les façons de penser. Il faut qu'on parle de stratégie nationale bas carbone, il faut qu'on parle d'adaptation. Et du coup, ce qu'on met en place, surtout à la fin du plan de relance de la sortie du COVID, où on a des financements là qui sont fléchés à l'heure actuelle, mais dans 2 ans, où est-ce qu'on en sera? Comment est-ce qu'on passe à la situation actuelle, à une situation de long terme? C'est critique. Une fois qu'on aura les trajectoires, on aura une implémentation, bien sûr, de long terme à mettre en place, mais le début... pour passer à la bonne vitesse, pour réduire nos émissions à 3, 4% par année. Le début, c'est difficile et ces investissements, c'est maintenant qu'il faut les faire.
Et ça, c'est valable pour tous les pays?
Absolument pour tous les pays.
Merci beaucoup, Corinne Le Quiré. Vous trouverez le lien pour lire le rapport du Haut Conseil pour le Climat sur la page internet de l'émission.
Merci.
Ali Farka Touré dans Ses pas du vent sur RFI.
Les températures ont atteint des records dans le Grand Ouest du Canada et des États-Unis.
Les autorités ont choisi de fermer les écoles et certains bâtiments publics transformés en fournaises. Les ponts de la ville sont également arrosés régulièrement pour éviter qu'ils ne cassent.
Il a fait 46,1 degrés sur l'aéroport de Portland lundi après-midi.
Les hôpitaux, eux, font face à une affluence record. Beaucoup de personnes déshydratées sont accueillies ici.
Il fait plus chaud dans certaines parties du Canada qu'à Dubaï, s'inquiète un climatologue canadien. Depuis ce week-end, un dôme de chaleur s'est abattu sur l'ouest du Canada, ce qui déclenche des records de température. Chaque année, inlassablement, le réchauffement climatique convoie son lot de catastrophes et de records. Ils illustrent une nouvelle normalité, celle d'une planète en surchauffe. Un phénomène qui affecte tout le monde. Mais certains peuples, et pas forcément ceux que l'on croit, sont plus fragiles que d'autres. Bonjour Anne Brunel.
Bonjour, bonjour Anne-Cécile Bras.
Vous êtes spécialiste des systèmes alimentaires des peuples autochtones au sein de la FAO, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation des Nations Unies, et vous venez de publier un rapport sur 8 systèmes alimentaires de différents peuples autochtones qui vivent dans les régions d'Asie, du Pacifique, d'Amérique latine, de l'Arctique et d'Afrique. Et ce rapport identifie les menaces qui affectent leur sécurité alimentaire. Des menaces qui semblent finalement beaucoup moins contraignantes que ceux auxquels les agriculteurs canadiens ont à faire face aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité faire cette recherche ?
Alors, tout d'abord, merci pour cette interview. Effectivement, la FAO et Biodiversity International et SIAT ont très récemment publié un ouvrage sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones. Et cette recherche, ce n'est pas forcément la FAO qui a sétoué l'affaire. C'est en 2015, la FAO a organisé une réunion avec un caucus de dirigeants autochtones venant des 7 régions socioculturelles. Et durant cette réunion, ils ont donné des orientations de travail à la FAO. Dans ce cadre, ils ont demandé à la FAO de travailler sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones. Et donc, c'est 2 ans plus tard que nous avons développé, dans le cadre de ce travail, une méthodologie de recherche avec Biodiversity International et d'autres organisations comme l'IRD, le Partenariat autochtone pour la l'agrobiodiversité et la souveraineté alimentaire, une méthodologie de recherche en partenariat avec les peuples autochtones sur le terrain. Donc, l'objectif principal de cette recherche n'était pas forcément nécessairement en premier lieu de mettre en lumière les menaces qui affectent la sécurité des systèmes alimentaires autochtones. Ces menaces sont rendues compte dans le livre, mais ce qu'on souhaitait mettre tout d'abord en premier lieu, c'était les éléments communs et uniques des peuples autochtones en termes de durabilité et de résilience face au changement climatique.
Alors, de l'Arctique à l'Amazonie, en passant par l'Himalaya et le Sahel, les 11 peuples autochtones présentés dans l'étude sont autonomes. Hein, c'est ça qui est assez extraordinaire à observer, même dans des environnements qui peuvent nous sembler, à nous qui ne sommes pas des peuples autochtones, extrêmement difficiles, extrêmement hostiles.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs facteurs de résilience pour les systèmes alimentaires des peuples autochtones. Le premier est en premier lieu l'accès à la terre et aux ressources, mais il y a aussi la gestion du territoire qui, dans ce cas, peut favoriser une grande biodiversité ou alors pour permettre la mobilité, et bien sûr les connaissances traditionnelles et les langues des peuples autochtones. Donc si je prends par exemple l'exemple des Inari Sami avec lesquels nous avons travaillé en Finlande, c'est un peuple de nomades, éleveurs de rennes, et c'est leur mobilité à travers de grands espaces qui permet en fait un bon pâturage et une régénération des ressources, alors qu'on sait qu'en Arctique, les ressources naturelles poussent moins vite que dans d'autres régions plus chaudes. Je peux aussi prendre l'exemple des Tikuna, Kokama et Yagua qui sont des pêcheurs qui vivent dans le bassin amazonien sur le complexe des lacs de Tarapoto. Eux, ce sont des pêcheurs qui adaptent leur technique de pêche et donc leur régime alimentaire selon le niveau de l'eau en fonction des saisons. Donc la saisonnalité est aussi une dimension très importante dans la résilience des systèmes alimentaires des peuples autochtones.
Vous avez aussi étudié des peuples en Afrique, dans le bassin du Congo notamment ?
Oui, tout à fait. Alors ce sont des peuples qui sont dépendants des ressources forestières et donc c'est la raison pour laquelle l'accès à la forêt est extrêmement importante. Et pour ces peuples, en tout cas pour ceux avec lesquels on a travaillé au village de Gribé au Cameroun, leur système alimentaire génère plus de 179 espèces de nourriture, 35 espèces qui va être liées aux cosmétiques, à la spiritualité ou à la construction de maisons, etc. Et donc 80% de leur nourriture viennent de leur territoire. Et un mécanisme de résilience qui est intéressant chez les Baka, mais observé aussi avec d'autres peuples autochtones, c'est le partage de nourriture, notamment en période de soudure. Donc ça, c'est ce qu'on remarque notamment avec les Anwal Nbotia en Inde, mais aussi en période d'insécurité alimentaire.
Et alors, vous avez aussi étudié des peuples au Sahel. Quelles sont les pratiques qui assurent à ces peuples une forme de résilience, justement ?
Alors, tout à fait. C'est aussi un peuple qui base son système alimentaire sur la mobilité. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que les espèces animales avec lesquelles ils travaillent sont des espèces locales et autochtones. Et cela suppose 2 choses, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus résilientes à la chaleur, aux fortes chaleurs et à la sécheresse, mais aussi à la rareté des ressources du milieu. C'est-à-dire que dans certains cas, d'autres espèces animales ont été intégrées par des acteurs extérieurs sur ces systèmes alimentaires et elles n'ont pas survécu pour ces raisons.
Alors, vous parlez de quel peuple, là ?
Là, des Keltamachèques, pardon, au Mali.
Alors, du coup, les Keltamachèques au Mali sont plus résilients que d'autres peuples parce qu'ils ont cette connexion à leur écosystème naturel, cette connaissance fine ?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les peuples autochtones ont développé des mécanismes de résilience au cours du temps et c'est pour ça qu'ils existent encore aujourd'hui. Après, la comparaison, pour moi, est difficile, mais c'est vrai que quand les peuples autochtones ont recours à leur système traditionnel, ils sont résilients.
Alors, c'est de l'extérieur, finalement, que leur mode de vie est menacé ?
Alors, effectivement, On a répertorié au cours de ce rapport plusieurs facteurs qui impactent négativement les systèmes alimentaires des peuples autochtones. Et le premier, comme je le disais, c'est un problème d'accès aux terres ancestrales et d'usage des ressources naturelles. C'est ce qu'on remarque dans le rapport que l'on a fait avec les Baka au Cameroun, mais aussi les Inari Sami en Finlande et les Bhotia et en Wal en Inde, qui ont un accès plus limité à ressources naturelles que par le passé. Mais on a aussi une réduction de la biodiversité due à des pressions extérieures, par exemple avec des industries extractives, que ce soit forestières ou minières. On a aussi l'introduction de nouvelles semences, de nouvelles races qui ne sont pas forcément adaptées aux conditions locales. Et puis on a évidemment le changement climatique, les catastrophes naturelles qui touchent quand même les peuples autochtones malgré le fait qu'ils aient des systèmes alimentaires résilients. Et puis bien sûr d'autres menaces qui sont plus liées à l'acculturation. Je pense également aux programmes d'alimentation scolaire qui ne prennent pas forcément en compte les préférences alimentaires de certains peuples. Et donc, ils vont changer les préférences alimentaires des enfants. Et donc, il va ensuite couper le lien aux connaissances traditionnelles et à la culture des peuples.
Et alors, c'est pour étudier tout cela que la FAO a créé en octobre 2020 une plateforme mondiale sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones. Dans quel objectif, finalement? Parce que vous vous êtes dit, on a des choses à apprendre.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette plateforme, sa création a été décidée en 2018. Lors d'un séminaire de haut niveau d'experts sur les systèmes alimentaires autochtones que nous avons organisé à la FAO. Et donc, cette plateforme a pour but d'améliorer notre connaissance sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones, mais aussi de promouvoir leur préservation et leur protection au niveau mondial. On dénombre aujourd'hui 476 millions de personnes autochtones dans le monde, ce qui fait un peu plus que la population de l'Union européenne. Et pourtant, ce sont aussi parmi les personnes les plus sous-alimentées dans le monde. Et encore, pas du fait de leur système alimentaire autochtone résilient, mais c'est parce qu'ils sont mis en situation de vulnérabilité avec toutes les menaces dont ils sont sujets. Et donc, les connaissances traditionnelles, l'accès à leurs terres, le maintien des langues autochtones sont vraiment des piliers pour la survie des peuples autochtones. Et c'est un des objectifs de la plateforme mondiale, c'est de connaître un peu plus ces systèmes alimentaires pour pouvoir les préserver et les promouvoir. Et donc c'est une plateforme qui regroupe 18 membres, universités, centres de recherche, peuples autochtones, pour co-créer de la connaissance et pour ensemble influencer les politiques internationales sur la durabilité et sur les systèmes alimentaires.
Voilà, et ce rapport est produit en partie par cette plateforme et il est disponible sous forme de livre.
Tout à fait, il est disponible en lien pour l'instant. C'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet. Pour l'instant, nous n'avons que en anglais. Il s'intitule Indigenous People's Food Systems, Insight on Sustainability and Resilience from the Frontline of Climate Change. Et je vous invite à le lire, il sera bientôt dans d'autres langues.
Oui, on mettra tous les liens, comme d'habitude, sur la page Internet de l'émission. Merci beaucoup, Anne Brunel.
Merci beaucoup à vous.
Thank you.
du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené un problème grave, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Voyons maintenant un peu plus dans le détail comment certains peuples autochtones sont impactés. Bonjour Edmond Dounias.
Bonjour.
Vous êtes ethnobiologiste, c'est une discipline de l'anthropologie qui étudie les relations culturelles entre le monde du vivant, végétal ou animal, et l'humain. Et vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez actuellement en Indonésie, vous êtes avec nous depuis Jakarta. Vous avez travaillé en Afrique essentiellement, dans le bassin du Congo. Quel peuple avez-vous étudié ?
J'ai essentiellement travaillé auprès de peuples qui dépendent le plus des ressources prodiguées par la nature pour leur vie quotidienne. Donc des sociétés qui nous sont contemporaines et que l'on reconnaît sous le terme de chasseurs-cueilleurs. On peut citer les Pygmées, par exemple, dans le bassin du Congo, les Orang Rimba à Sumatra ou les Pnan à Bornéo. Donc ces peuples ont des caractéristiques importantes. D'une part, leur petit nombre. Ensuite, leur mobilité, car ils doivent se déplacer sur une base saisonnière à l'intérieur de vastes étendues. Un sens aigu de l'égalitarisme par un partage et une redistribution systématique des ressources. Et puis une grande diversité culturelle. Ces populations ne représentent que 0,12% de la population mondiale. C'est une goutte d'eau en termes de nombre d'individus. Mais ils sont dépositaires de plus de 5% des langues qui sont parlées dans le monde. Notez, par rapport à la question que vous m'avez posée, les peuples que j'ai étudiés, à noter un changement très fort de posture par rapport aux premières années de mes travaux où je travaillais sur les savoirs naturalistes de ces peuples, alors qu'aujourd'hui je travaille avec les détenteurs de ces savoirs.
C'est une autre approche, c'est-à-dire que vous avez changé un peu votre vision.
Oui, la posture du chercheur n'est plus la même, car on appréhende ces populations non plus comme des objets de recherche, mais comme des partenaires de recherche.
Alors le point commun de ces populations que vous évoquez, c'est qu'elles ne pratiquent pas l'agriculture, mais qu'elles se nourrissent de ce qu'elles ont à leur disposition. Alors par exemple, chez les Pygmées, ça donne quoi ?
Chez les Pygmées, concrètement, par exemple, une ressource clé dans cette société, c'est l'accès à des tubercules sauvages qui sont produits par des ignames, avec un système de connaissance de la répartition de ces ignames à travers l'espace et des techniques de déterrage qui vont favoriser la régénération de la plante, voire à décupler la quantité de tubercules qui vont être produits par cette plante. Cette plante qui reste à l'état sauvage, qui n'est absolument pas cultivée, malgré tout, malgré son statut de plante sauvage, elle fait l'objet d'un contrôle de protection, de transmission.
Et en Indonésie, par exemple ?
Alors, en Indonésie, nous avons le phénomène similaire avec, cette fois-ci, une autre ressource clé pour ces chasseurs-cueilleurs, qui sont ce qu'on appelle les palmiers sagou. Donc là, ce ne sont plus des plantes à tubercules qui font l'objet de ce type de gestion, mais des palmiers qui poussent à l'état sauvage, mais dont le peuplement est entretenu, régénéré, voire favorisé par ces populations. Donc ils savent très précisément où trouver cette ressource, ils savent quels arbres ou quels pieds de tubercules ils ont déjà exploités, et ont mis en place des règles sociales pour éviter que la ressource soit gaspillée ou volée ou détruite, que ce soit accidentellement ou pas.
J'imagine que ce sont des savoirs qui sont transmis de génération en génération ?
Oui, absolument, mais avec parfois aussi des processus de transmission qui ne sont pas ceux auxquels on pense forcément. Chez nous, on pense toujours à une transmission verticale qui se fait des plus âgés vers les plus jeunes. On a dans ces sociétés des connaissances, des savoirs qui sont détenus par les plus jeunes et qui font l'objet d'une transmission horizontale, donc entre individus de la même tranche d'âge et sans nécessairement intervention des plus âgés pour que cette transmission se fasse.
Enfin, j'imagine que les plus âgés ont une meilleure connaissance des écosystèmes que les plus jeunes, non ?
Ils n'utilisent pas le même écosystème en réalité. Ils n'accèdent pas aux mêmes ressources. En fait, les plus jeunes, dans ces sociétés, exploitent des ressources qui leur sont propres, qui n'intéressent pas les adultes. On peut évoquer des petits rongeurs, des oiseaux, des insectes, des petits fruits, des petites baies. tout ce genre d'aliments qui ne sont pas estimés comme intéressants par les adultes, mais qui ont une importance clé dans l'équilibre alimentaire des enfants. Un savoir est donc détenu par les enfants, qui ne sont pas simplement perçus comme chez nous, comme des adultes en devenir, mais qui sont des acteurs à part entière de la société, et qui sont donc détenteurs, dépositaires d'un savoir qu'ils vont se transmettre entre eux de façon horizontale.
Alors cela implique de la part des enfants comme des adultes une connaissance très fine des écosystèmes dans lesquels ils vivent ?
Absolument. Tout comme chacun de nous connaît les moindres recoins de son chez-soi, on sait comment on entrepose nos effets, nos réserves alimentaires et les compartiments de notre réfrigérateur. Eh bien, pour ces peuples chasseurs-cueilleurs, le milieu naturel est leur gîte. Et donc, ces peuples suivent des sentiers territoriaux le long desquels ils ont été précédés par leurs ancêtres durant des générations. Et chaque parcelle du territoire est donc connue. Et chaque société a érigé une organisation sociale, j'en donnais quelques exemples tout à l'heure autour des plantes à tubercules, et donc une organisation sociale qui est propre à chaque société et qui leur permet d'optimiser l'accès à leur territoire.
Est-ce qu'il y a des différences fortes entre les pygmées des bassins du Congo et les peuples d'Indonésie ou de Sumatra dont vous parliez ?
Oui, il y a évidemment des différences qui sont liées à la culture, au système symbolique, au système de représentation. Mais je dirais que ce qui m'a frappé le plus, moi, en tant que chercheur ayant d'abord travaillé longtemps dans le bassin du Congo pour ensuite me déplacer à 15 000 km plus loin, ce sont les similitudes. Les plantes ne sont pas les mêmes. Les noms scientifiques que l'on va poser sur les végétaux ou sur les animaux n'ont rien à voir. En revanche, eh bien, on retrouve un certain nombre de dénominateurs communs entre ces sociétés. Et ces dénominateurs communs, je les évoquais au début, le fait d'être mobile dans son milieu, le fait de se déplacer en petits groupes, en faible nombre, pour éviter une certaine pression sur l'écosystème, mais également aussi, c'est une excellente stratégie pour moins s'exposer aux agents pathogènes. On est moins visible quand on est en petite communauté. Aujourd'hui, on le voit, les principales maladies qui se développent dans nos sociétés sont des maladies qui profitent de notre concentration humaine et de notre promiscuité pour circuler. Et puis enfin, le dernier point qui est vraiment très fort en termes de points communs, c'est ce sens du partage, ce sens de l'égalitarisme, ce sens de la redistribution et faire en sorte que quand une ressource est acquise, eh bien, tout le monde puisse en bénéficier.
Et alors, comment est-ce que les changements climatiques impactent leur système alimentaire ?
Alors, pour saisir comment finalement le changement climatique est perçu et compris par ces peuples, eh bien, si vous me permettez de recourir à une métaphore musicale, envisageant la nature comme un orchestre philharmonique jouant une œuvre complexe, eh bien, ces peuples sont tels un mélomane à l'oreille aguerrie qui va être capable de capter les moindres dissonances qu'il y aurait dans cette mélodie. Petit retard de tempo dans le triangle, une flûte qui va se mettre à jouer une fraction de seconde trop tôt. Eh bien, notre science académique, elle est capable de suivre un instrument donné. Tel un luthier, le chercheur va démonter l'instrument pour voir pourquoi il ne sonne pas normalement. Eux, les peuples chasseurs-cueilleurs, en mobilisant tous leurs sens, ils sont à l'écoute permanente de la symphonie. Et ils vont capter le moindre signal biotemporel qui pourrait, par sa précocité, son retard, son absence ou sa surprésence, altérer la mélodie. Et la moindre altération, eh bien, va occasionner de leur part une prise de décision afin d'ajuster leur stratégie d'accès à leurs ressources. La plasticité, la flexibilité, le sens de l'adaptation de ces peuples vont être mobilisés justement pour répondre à cette dissonance. En cela, ils sont de véritables sentinelles de leur environnement. Et nous avons besoin de leur oreille de mélomane pour mieux comprendre les subtilités des changements qui ont cours.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pu constater avec eux, du coup, comme changement, soit dans le bassin du Congo, soit en Indonésie ?
Eh bien, les forêts tropicales sont les écosystèmes dans lesquels la mesure du changement climatique est la plus difficile. Et bien souvent parce que ces effets du changement climatique sont occultés par d'autres impacts qui sont plus immédiats, plus graves, comme la déforestation, la coupe du bois, la conversion des forêts en plantations agro-industrielles, notamment de palmiers à huile. Donc tout ça, je dirais, a tendance à reléguer les effets du changement climatique à un second plan. Ce que j'ai observé dans tous ces milieux, c'est le fait que dès que ces populations mettent le nez dehors, leurs sens sont aux aguets et elles peuvent capter par le visuel, par l'olfactif, par l'auditif. Elles vont entendre le cri, le chant d'un oiseau. Ah tiens, il y a un oiseau migrateur qui est arrivé dans la zone. Normalement, cet oiseau migrateur arrive de façon synchrone avec la floraison de ce grand arbre qui est là et qui produit une inflorescence rouge que l'on peut voir à distance. Le fait que l'oiseau, qu'on entende le chant de l'oiseau alors que l'arbre n'est pas rentré en floraison, voilà le genre de dissonance que les gens vont capter au quotidien et qui leur dit qu'il y a des perturbations dans la façon dont les plantes et les animaux sont en train de réagir à des modifications subtiles de leur écosystème. Les abeilles, alors bien sûr, on parle beaucoup des abeilles comme sentinelles de l'environnement. Nos apiculteurs voient comment les abeilles changent de comportement. En forêt tropicale, ce sont des centaines d'espèces d'abeilles que les gens côtoient au quotidien. Et ils voient de la même façon, eh bien, ces insectes pollinisateurs avoir leur boussole, en quelque sorte, désorganisée. Et ce sont autant de signaux, de ce que j'appelle des indicateurs biotemporels, qui vont les alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ils ont donc encore cette plasticité qui leur permet de répondre à ces changements. Plasticité qui est de plus en plus contrainte quand on réduit leur accès à leur écosystème, notamment du fait de conversion de la forêt en plantation ou de création d'aires protégées. Autant de dispositifs qui réduisent leur accès à la forêt et qui les privent de cette plasticité naturelle qui leur permettait de s'ajuster face à ces changements.
Alors, quand on vous écoute, on se dit qu'on a beaucoup à apprendre de ces peuples qui sont malheureusement souvent méprisés.
Absolument. Moi, je retiendrai trois choses essentielles en termes de ce qu'ils peuvent nous apprendre. Eh bien, d'abord, la première chose, c'est écouter cette symphonie que j'évoquais auparavant. Symphonie à l'égard de laquelle nous sommes, nous, totalement autistes. C'est en combinant les sciences, et quand je dis les sciences au pluriel, c'est la science académique et les sciences autochtones, que nous pourrons accéder à une compréhension plus juste et plus fine du monde et apporter des réponses adéquates pour permettre à tous ces milliards d'humains de vivre durablement sur une planète dont les ressources sont finies. Nous avons besoin de l'aide de ces peuples pour tenter d'atteindre ces fameux objectifs de développement durable à l'horizon de la prochaine décennie. Si ces peuples et les savoirs dont ils sont les détenteurs disparaissaient, nous perdrions les meilleurs professionnels et les meilleurs gestionnaires de ces écosystèmes. Il est illusoire, par exemple, de vouloir préserver les derniers lambeaux de forêt de Bornéo sans des peuples qui y vivent, car ces peuples ont joué un rôle essentiel dans l'entretien de ces forêts à travers cette paraculture que j'évoquais précédemment. Alors ensuite, la nature n'est pas vécue par ces peuples comme un simple garde-manger. Elle est une raison de vivre et elle est une raison d'être pour eux. Dit autrement, nature et culture sont indissociables dans ces sociétés. Or, toute notre histoire et notre développement économique d'occidentaux se sont construits sur une rupture, une dissociation entre nature et culture. La seconde, notre culture, s'imaginant qu'elle pourrait dompter la première. Nous nous sommes totalement fourvoyés et, sous réserve de faire preuve d'un peu d'humilité, eh bien, ces peuples qu'on a tendance à considérer comme arriérés et avec beaucoup de condescendance, eh bien, pourraient nous aider à nous réconcilier avec notre nature. Enfin, troisième point, les écosystèmes dans lesquels ces peuples évoluent regorgent de beaucoup d'ancêtres de nos plantes alimentaires actuelles. On le sait, la sécurité alimentaire mondiale, elle doit passer par une diversification de nos alimentations, par une rediversification, devrait-on dire. Rappelons ici qu'au cours des 12 000 ans écoulés, les sociétés humaines ont eu recours à plus de 13 000 espèces de plantes et d'animaux pour se nourrir et se soigner. Aujourd'hui, 98% de l'alimentation mondiale est assurée par seulement 12 espèces de plantes cultivées et 14 espèces d'animaux domestiques. On peut s'interroger où est le progrès dans un tel contingentement de nos régimes alimentaires. Ces peuples ont su garder une alimentation diversifiée et variée au rythme des disponibilités saisonnières. Et ils nous montrent la voie, très clairement, et ces parents sauvages de nos plantes et animaux alimentaires, eh bien, ils ont gardé une certaine vigueur, une certaine rusticité qui nous permettrait d'enrichir la diversité génétique de nos aliments, sans que l'on ait à jouer les apprentis sorciers avec ces OGM qui polluent aujourd'hui nos assiettes. Un petit peu, quelque part, comme on revisite aujourd'hui des vieux légumes oubliés, non dépourvus de goût et d'intérêt nutritionnel, mais qu'une alimentation normative a eu tendance à reléguer aux confins des jardins de quelques passionnés. Eh bien voilà, on a là, à travers ces peuples chasseurs-cueilleurs, des passionnés de la diversité Et cette passion pour la diversité, eh bien, elle peut nous être utile pour rediversifier nos alimentations. Et on a besoin de cette rediversification pour garantir une certaine sécurité alimentaire mondiale.
Merci beaucoup Edmond Dounas.
Merci beaucoup Anne-Cécile Bras.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
We want the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us, and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry are unable.
Avant de conclure cette émission, une bonne nouvelle. Le Conseil d'État français, la plus haute juridiction du pays, demande au Premier ministre de prendre, je cite, « toutes les mesures utiles pour respecter les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que s'est fixé la France ». Le gouvernement a désormais 9 mois pour renforcer sa politique climatique. Cette décision intervient suite à la plainte déposée contre l'État français par la ville de Grande-Synthe, située dans le nord du pays, et par plusieurs associations environnementales comme Oxfam et Greenpeace pour inaction climatique. Corinne Lepage, l'avocate de la ville de Grande-Synthe, a salué une décision historique. D'autres villes pourraient emboîter le pas. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.
Power for the people. Power for the people. Power for the people. Le